Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez qu'on habite Cour-Émile Zola, que la radio est basée Cour-Émile Zola à Villeurbanne, et que ce monsieur Zola, il est un peu connu, mais il n'est pas assez connu. Et c'est pour ça que je suis assez content d'accueillir une personne qui va presque tout nous dire sur monsieur Zola. C'est bien ça, non? Vous allez tout nous dire?
Oh, je vous dirai tout. Alors bonjour d'abord, bonjour à tous.
Bonjour.
Je vous dirai tout si vous venez évidemment à la conférence que je donne sur Zola. Jeudi, donc le 1er février, mais je peux vous en parler, bien sûr, puisque je trouve qu'il mérite une place formidable, ce géant des lettres, que longtemps il n'a pas eu d'ailleurs. Hein. Voilà.
Alors, pourquoi Zola? Vous l'avez choisi au hasard ou c'est parce que, je ne vais pas vous demander si vous l'avez rencontré quand même, je vais être assez poli, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de lui?
Oh, je pense que déjà, je m'intéresse beaucoup au 19e siècle, qui en quelque sorte, je me sens chez moi, 19e siècle. Mmh. J'ai beaucoup travaillé sur Georges Sand, sur Flaubert, sur Victor Hugo. Et d'autre part, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les histoires d'amour. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les conversations, enfin j'allais dire conversations, on va dire correspondance amoureuse, parce que j'aime beaucoup les lettres, donc il faudrait que ce soit écrit, bon voilà. Et donc là, j'ai trouvé matière à avoir deux tomes de correspondance de Zola avec ses très proches. Et cette belle histoire que je vais raconter, pas seulement parce que je vais parler de toute sa vie, mais enfin rapidement quand même, mais notamment mon titre, c'est « Deux pages d'amour », parce que j'ai fait un jeu de mots sur le roman qu'il a écrit et qui s'intitule « Une page d'amour ». Et pourquoi deux pages d'amour? Parce qu'il était dans une situation assez incongrue, en tout cas, peut-être pas si rare, mais qui a été...
À l'époque, c'était...
Mais attendez, qui a été vécu d'une façon formidable parce qu'il avait à la fois donc une femme légitime, Alexandrine, qu'il gardera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, et une maîtresse, Jeanne Rosereau, qui était dans l'ombre et qui lui a donné deux enfants qu'il n'aurait jamais pu avoir avec Alexandrine parce que le couple ne pouvait pas avoir d'enfants. Et évidemment, après des crises multiples, parce que ça n'a pas été simple pour personne, eh bien, il a réussi, ils ont réussi avec une certaine noblesse et une certaine dignité à vivre cette situation insolite et difficile à vivre. Voilà.
Déjà, à l'époque, ça veut dire que on a. C'est pas nouveau pour nous aujourd'hui, c'était déjà comme ça auparavant.
Ah ben d'autant plus qu'au 19e, alors carrément, vous savez, à la belle époque notamment, hein, les hommes avaient très souvent une maîtresse. Alors, c'était pas du tout le profil de Zola, qui lui est un homme complètement été. Vous voyez, je dis tellement que je suis encore tout à fait pour moi c'est actuel parce que je suis complètement donc avec lui dans ses lectures que je ne cesse de faire. Eh bien, les hommes avaient très souvent une maîtresse. Il n'y avait pas encore le divorce qui était accepté. Et très souvent, ils avaient une maîtresse. Ils ne voulaient absolument pas rompre avec leur vie bourgeoise, avec leur femme et leurs enfants, etc. Alors, c'était pas du tout le cas de Zola, qui n'était pas ce genre d'homme. Et jamais il n'aurait pensé, très certainement, avoir une maîtresse. Mais les choses se sont faites parce que c'est le destin dans un sens. Et puis peut-être cette envie de descendance chez lui, vous savez, c'est plus ou moins conscient, qui a fait que bon, cette jeune fille qui était magnifique, qui était beaucoup plus jeune que lui, hein, 20 ans de moins, eh bien lui a donné envie d'avoir une autre part de sa vie qui était bien à lui. Et tout s'est fait évidemment avec l'amour, voilà, tout s'est fait d'une façon qui était toujours très vécue d'une façon profonde. Et comment vous dire, c'est loin d'être un homme léger, vous voyez. Voilà, donc il y a beaucoup d'hommes qui, je répète, à cette époque, vraiment tromper leur femme et laisser d'ailleurs leur femme les tromper à condition qu'elle ne soit pas répréhensible sous le toit familial, n'est-ce pas?
D'accord.
Les hommes ne devaient pas le faire non plus sous le toit familial, mais si les apparences étaient sauves, on n'embêtait absolument pas les hommes, alors que les femmes, si, elles se retrouvaient parfois en prison et privées de leurs enfants. Mais Jeanne, de toute façon, était libre, elle n'était pas mariée, hein. Donc elle n'était pas dans cette situation. Voilà.
Alors, c'est vrai que c'était une autre époque et tout. Est-ce que je m'en trompe ou vous allez aussi parler de graphologie ?
Ah, bien sûr. Parce que, à vrai dire, l'intérêt m'est venu, de parler de Zola, m'est venu pour vous répondre en regardant son graphisme, qui m'a tout de suite semblé porteur de beaucoup de choses que l'on retrouve dans sa vie, dans son œuvre. Et je me suis laissée embarquer vraiment par cette analyse graphologique. C'est toujours une enquête, hein, et c'est toujours c'est passionnant. Hein, la graphologie est merveilleuse. Et sur le plan de la personnalité, alors, je vous livre des trésors. Et là, d'autant plus, j'ai beaucoup travaillé évidemment sur ses biographies, beaucoup de biographies qui sont parues sur lui. Donc vous avez tous les ingrédients pour, m'ouvrir à plus de, d'intérêt psychologique, ou psychanalytique d'ailleurs, pour approcher davantage Zola, qui est très complexe. Voilà.
D'accord. C'est marrant parce que moi, je ne voyais pas du tout l'homme de cette manière-là. Je voyais le grand écrivain avec une production assez extraordinaire et tout. Ce qui est intéressant, j'ai l'impression qu'on va découvrir un peu les coulisses, tout ce qu'il peut y avoir derrière et ce qui peut expliquer aussi certains écrits.
Tout à fait, mais alors bon, je ne veux pas du tout vous donner l'impression que je fais du voyeurisme, mais absolument pas, parce qu'il s'agit toujours partout. Tout le temps en graphologie, de respecter la personnalité profonde des gens, donc de les aborder à travers le graphisme d'une façon fine, nuancée, et d'être très prudent sur ce qu'on avance, et de ne dire que ce qu'on voit dans l'écriture, vous voyez. Et ça s'apprend, évidemment, c'est après plusieurs années d'études, Société française de graphologie. Et donc, quand l'association lyonnaise de graphologie m'a invité à venir pour présenter cette conférence, bon, j'ai été ravie de retrouver cet environnement qui m'est très cher et qui est toujours, moi, je trouve, une approche qu'il ne faudra jamais mettre sous le boisseau, qui est celle de la personnalité profonde. Il n'y a pas seulement ce qu'il montre. Et il n'y a pas seulement sa vie écrite dans les livres, la biographie qu'on connaît. Il n'y a pas seulement ses œuvres, mais il y a aussi un homme qui a vécu des choses extraordinaires et qui est une personnalité unique. Les écritures sont uniques. L'écriture est absolument unique. On a des millions, des milliards, notre écriture est unique. Et elle décèle beaucoup de secrets. Voilà.
Alors moi, je vais venir assister à la conférence, mais j'ai l'impression, en vous entendant, en vous écoutant, que ça va me donner envie de relire ou de lire des productions d'Émile Zola, que je n'ai pas, j'ai pas tout lu de lui.
Eh bien oui, je m'en doute, parce que vous savez déjà, les Rougon-Macquart, il y a 20 romans. Il était parti pour en écrire 10, et il en a écrit 20. Et de plus, ils sont très longs. Alors, je comprends très bien que vous n'avez pas tout lu parce que moi, pour vous dire quelque chose, moi non plus. Voilà, je ne suis pas une spécialiste de Zola. En tant que professeur de lettres modernes, d'ailleurs, pendant de nombreuses années, bien entendu, avec mes élèves, vous savez, on l'étudiait pas à l'université au moment où j'ai fait mes études. On esquivait Zola. Hein, voilà. C'est tout juste si on parlait de Camus, c'est vous dire. Mais disons que si vous voulez lire Zola, ben, je donnerai justement quelques conseils. Bon, on peut toujours trouver des romans un petit peu plus minces, parce que c'est toujours des pavés. Hein, si vous voulez. Voilà, je vous avoue qu'il ne faut pas commencer par ça. Par contre, par exemple, Thérèse Raquin se laisse lire très bien, hein, très bien. Et puis, ce qu'on oublie souvent, ce sont les nouvelles. Les nouvelles de Zola, elles sont magnifiques. Elles sont très... très modernes, j'allais dire. Elles font penser aux nouvelles de Maupassant, qui était d'ailleurs un ami à lui. Et voilà, par exemple, un titre d'un recueil de nouvelles qui est « La mort d'Olivier Bécaille », hein, qui est en petite édition Librio que l'on trouve facilement en librairie. Et, ben, c'est absolument passionnant. Et ça, par exemple, mes élèves, notamment troisième ou seconde, adoraient. Vous voyez. Et puis Germinal aussi, bien entendu. Ah ben
ça, c'est le... Comment ne pas avoir lu, ne pas avoir vu le film Germinal, ça c'est...
Voilà. Alors c'est vrai que le film, qui est d'ailleurs très bon, nous aide à approcher certains romans, parfois qui nous semblent un peu difficiles à pénétrer, mais il est vrai que, bon, personnellement je l'étudie en extrait avec mes élèves, et je racontais les scènes qu'on n'étudiait pas, qui étaient, enfin les scènes, pas le théâtre, mais je veux dire les chapitres, et en étudiant pour les extraits les plus importants, qui étaient la charpente du roman, et ça passait très bien. Après ça, on regardait le film, on faisait un petit peu une discussion entre le rapport du film et du roman, et ça je suis sûre qu'ils étaient très, vraiment très intéressés, ils le montraient. Hein.
D'accord, parfait. Donc c'est à la mairie du 6e, c'est demain à 18h30.
Oui.
Et je pense qu'il faut quand même contacter la mairie du 6e à Lyon pour réserver, ça vaut mieux.
Alors, je regardais tout à l'heure sur le site, c'est ce qui est dit en effet. Il est évident que moi je ne m'occupe pas de cet aspect-là, mais effectivement il est conseillé de retenir et de réserver. Et on m'a déjà dit qu'il y avait pas mal de monde, alors effectivement, voilà, je serais tout à fait ravie de parler de Zola d'une façon plus précise demain avec... ce public que j'aime beaucoup, ce public lyonnais vraiment qui est très à l'écoute et très fidèle et que j'aime beaucoup. Voilà.
En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir donné ces quelques minutes pour cette interview. Elle est passionnante. Je me suis régalé. Je n'ai pas vu le temps passer. Et je me dis que demain, ça va être la même chose. Je vais me régaler et je vais me faire un gros plaisir. Voilà. Merci à vous en tout cas.
Et à demain. Au revoir. Au revoir. Merci.